Bonjour, aujourd'hui on rencontre Michael Poncet, médiateur numérique au Fab Lab du quartier Manufacture. Bonjour Michael, donc pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un Fab Lab ?
Un Fab Lab, c'est un, si on traduit littéralement, c'est un laboratoire de fabrication. Donc ça, ce sont des espaces en fait qui permettent la mutualisation des machines et qui sont accessibles au grand public sous la forme d'une adhésion. Et ça peut, le fait de mutualiser les machines, ça permet à tout un chacun d'accéder à des machines, on va dire, un peu plus performantes, qui leur permettent de soit prototyper des projets, soit d'avoir une activité en lien avec des objets qui viennent fabriquer au Fab Lab. Donc dans un Fab Lab, on va retrouver des machines plutôt à commande numérique, de l'impression 3D, découpeuses laser, fraiseuses numériques, découpeuses jet d'eau, etc. En fait, principalement pour... et nous, on fait le lien entre la personne et la machine, j'ai envie de dire, pour leur permettre d'acquérir des compétences et utiliser ces machines.
Alors j'ai vu que vous étiez plusieurs à travailler ici. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle et des personnes qui travaillent avec vous ?
Ouais, on est trois salariés, on va dire, actuellement. À savoir qu'on a une particularité, c'est qu'on a un Fab Lab qui est co-géré. Donc ça veut dire qu'il y a une partie qui est gérée par l'Université Jean Monnet et une partie qui est gérée par l'association Zoomacom, qui est au départ Centre Ressources Départementales de la Médiation Numérique, et pour qui le Fab Lab, c'est aussi un outil pour aller vers un grand public un peu plus éloigné des outils numériques, de manière générale. Donc on va retrouver, en termes de personnes, Thibaut Secato, qui est le Fab Manager, qui est de l'Université Jean Monnet, et qui, lui, va assurer l'accueil et la formation du public sur les machines, principalement. Et les deux autres salariés, on fait partie de Zoomacom. Donc il y a Tanguy Armand qui est en alternance cette année sur une licence gestion des organismes de l'économie sociale et du coup qui est sur un sujet où on va développer des groupes de travail autour de la fabrication locale. Et il y a moi-même donc, qui suis en gros en charge de... du projet Fab Lab, donc à la fois de la communauté Open Factory, qui était le nom de l'ancien Fab Lab, et depuis qu'on s'est rapproché de l'Université Jean Monnet, le nom a changé. Mais on a gardé le nom pour la communauté parce qu'il y a des repères et des habitudes pour les plus anciens adhérents. Et j'ai aussi en charge d'animer le réseau des espaces de fabrication numérique de la Loire, avec qui on travaille sur des événements pour faire découvrir ces lieux.
Vous parliez de l'Université Jean Monnet, vous avez un lien, donc c'est elle qui a l'initiative de l'implantation ici, ou comment ça s'est passé
Ça s'est passé sur 10 ans.
D'accord.
Non, au début, Open Factory, c'est une association propre, donc en 2013, qui s'est constituée avec des acteurs associatifs et des personnes physiques qui ont décidé de monter ce projet. C'était fortement ancré avec des personnes en lien avec Zoomacom ou des anciens de Zoomacom qui voulaient porter ce projet un petit peu. Donc en 2016, il y a eu un premier rapprochement avec l'Université de Lyon, cette fois, dans les locaux de la Fabrique de l'Innovation, enfin la Préfabrique même à l'époque, 2016. Et il y avait l'idée d'intégrer ce bâtiment à son ouverture. Donc en 2016, on partage des locaux communs, mais avec des projets un peu différents. Et on s'est dit qu'en 2021, quand on tente d'intégrer les nouveaux locaux, d'essayer de travailler sur un projet commun, quoi.
D'accord.
Voilà. Et depuis fin 2022, c'est l'Université Jean Monnet qui a repris un peu tout le projet. Et donc voilà, ça s'est fait progressivement par étapes, mais en se disant que... on est un des rares Fab Labs qui est à la fois académique et à la fois ouvert au grand public en France. Donc on mutualise aussi nos moyens financiers pour avoir un peu plus de machines à disposition de tout le monde.
Vous adressez à un public qui du coup est sur le campus, même les personnes autour à Saint-Étienne, c'est ça ?
Oui, après, principalement, on va dire, il y a des zones où il n'y a pas forcément d'accès à des Fab Labs et on a des gens qui viennent d'un peu plus loin que la métropole, quoi. Mais le but des Fab Labs, c'est plutôt d'être à proximité des gens. Donc c'est pour ça aussi qu'on anime le réseau des Fab Labs et qu'on accompagne aussi le développement de nouveaux lieux. Ce qui est intéressant, c'est que nous, ça nous permet de réorienter les personnes vers des lieux qui leur sont plus proches aussi. Voilà, l'idée, c'est pas de faire 40 km pour aller dans un Fab Lab, même si tous les territoires sont pas aussi bien couverts ou autant couverts d'un territoire à l'autre, quoi.
Ok. Et du coup, pour revenir au sujet donc c'était de cette interview, les enjeux climatiques, est-ce que vous avez des engagements vis-à-vis de cela ici, que ce soit dans vos projets ou...
Voilà. Ouais, bah déjà, le fait de fabriquer localement, en fait, c'est déjà une réponse à un enjeu climatique. Ça veut dire moins de coûts de transport, de la fabrication locale. Donc, il y a cette première partie. Dans les Fab Labs aussi, on prône un peu ce qu'on appelle la fabrication distribuée. C'est qu'en fait, le fichier peut être le fichier image ou le plan 2D peut être créé n'importe où, partagé sur Internet, pour avoir une fabrication au plus près de chez soi. Donc, entre cette logique de fabrication locale, fabrication distribuée, on y répond déjà un petit peu. On essaye aussi de mener des projets autour du recyclage de plastique. Alors là, c'est plus au stade de recherche, développement, où on essaye de broyer du plastique pour en faire de l'injection dans des moules, voire faire des grandes plaques qu'on pourrait presser. Ça risque d'être un investissement sur 2024-2025 pour refaire du mobilier avec ces plastiques. L'histoire des plaques de plastique, ça sera qu'en 2025, mais déjà cette année, on a acté l'achat d'une nouvelle fraiseuse qui a une zone de travail d'1,20 m par 1,80 m pour pouvoir faire du mobilier, en fait. Et avec une troisième étape où là, avec la presse à plaques, on préfère nos propres plaques et les fraiser pour faire du mobilier recyclé, par exemple. Donc voilà, après, on essaye aussi d'être vigilant, de prêter une attention à comment se fournir en matières premières. Donc là, c'est aussi un des travaux de Tanguy, d'arriver à cerner un petit peu les lieux où on pourrait se fournir à proximité. Donc sur du contreplaqué, MDF, travailler avec on n'appellera pas ça des fabricants, hein, parce que sur ce type de produit, il n'y a pas de fabricants dans la Loire. Mais en tout cas, de travailler avec des vendeurs un petit peu locaux, d'arriver à recenser aussi les différentes ressourceries en termes des matériaux qu'on peut utiliser. Parce qu'on a pas mal parlé de bois, mais il y a des gens qui peuvent travailler le textile. Donc c'est des choses qu'on peut travailler avec, par exemple, pièces montées, chrysalides. On n'a pas de partenariat directement avec eux, mais par contre, si on a des demandes, on essaye de réorienter vers ces types de structures qui sont plutôt locales et qui favorisent le réemploi de matières premières.
Et est-ce que vous avez un exemple de projet que vous avez accompagné et qui s'inscrit donc dans cette démarche?
Oui. Non, c'est un étudiant entrepreneur il y a 2 ans, Léo Sacha, qui du coup a créé la société Mobilio. Et en fait, il a commencé par faire du mobilier de yoga. Donc il avait un petit tabouret, des petites tables basses, et il arrivait jusqu'aux étagères. Donc du coup, il a pousser sa réflexion pour déjà dessiner ses propres plans, hein, c'est une école de design, et à travailler sur le modèle de la fraiseuse qu'on a aujourd'hui, qui est une zone de travail beaucoup plus réduite que celle que j'évoquais tout à l'heure, ou pour faire du mobilier sans clous ni vis, en fait. Et du coup, une fois qu'il a pensé son mobilier, il s'est dit voilà, mon bois, j'aimerais aussi qu'il ait une certaine éthique, donc il a poussé cette réflexion en allant faire un peu le tour des scieries locales. Donc il a d'abord acheté du bois local, et c'est là où il s'est dit, après, ça serait bien aussi que le bois vienne d'ici, et pas que ça soit qu'une scierie qui finisse le travail. Donc voilà, il a poussé petit à petit sa réflexion en allant plus loin. Et avec une logique où les plans de certains mobiliers qu'il a faits, ils peuvent être accessibles au Fab Lab.
Donc ça aussi, ça répond du coup à une problématique autour des enjeux climatiques, d'essayer de moins polluer, de...
Ou de moins fabriquer.
Oui, voilà, moins fabriquer, ou de mieux fabriquer aussi.
Ouais, et d'investir intelligemment aussi, du moins, parce qu'on pourrait acheter tout un tas de machines. On ne fait pas l'achat de machines sans prendre en compte les demandes, en fait. La fraiseuse, ça pourrait être longtemps que ça aurait pu être un choix. C'est vrai que ces dernières années, on a développé des partenariats avec la Cécile Montaud, donc on s'aperçoit qu'il y a un besoin commun. On a de plus en plus de personnes qui sont en train de se poser la question aussi de reconversion professionnelle et de travail autour du bois les intéresse. Donc voilà, c'était la machine sur laquelle pour le moment on n'était pas. On essayait d'être sur une gamme pré-industrielle au début de l'industrialisation et on n'était pas équipé. On est sur une gamme un peu amateur, on va dire, bricoleur. Donc voilà, ça nous permet de passer à l'étape au-dessus sur ce projet-là et d'avoir une réponse un peu globale au sein du territoire aussi. Quoi.
Vous, dans un horizon un peu plus lointain, comment est-ce que vous voyez l'évolution du Fab Lab, de ce Fab Lab ou du réseau?
Sur le lieu Fab Lab, là, déjà, je trouve qu'on a pris une belle évolution en sachant qu'il y a le campus universitaire qui n'a pas fini de descendre sur de la métare. Donc, il y a le deuxième bâtiment à côté qui se construit. Et donc, les projets pour les étudiants, en tout cas, ça va encore continuer à se développer parce qu'ils seront plus nombreux, tout simplement. Après, c'est d'arriver à mettre en place des dynamiques collectives, en fait. Alors, on essaye de le faire, on le fait un petit peu. Mais j'ai envie de dire, ça serait d'avoir un salarié à plein temps qui reste sur le temps, qui n'est pas qu'un alternant, même si c'est très intéressant d'en avoir et on en prendra encore, mais d'avoir une personne qui soit plus là pour faire des ateliers solidaires, quoi. Dans l'idée, ça serait, par exemple, faire des ateliers enfants-parents les mercredis après-midi, ou sur des samedis, ou un peu plus le faire aussi pendant les vacances scolaires. Cet axe-là, on ne l'a pas encore assez travaillé, par manque de temps, pas par manque d'envie, mais la charge de travail ne permet pas tout le temps. De travailler aussi des questions autour de l'inclusion, en fait, au sens large. On s'aperçoit que les Fab Labs, c'est aussi des espaces où on peut personnaliser ses objets. Et là, depuis peu, on commence à avoir pas mal de structures en fait, qui travaillent sur la question du handicap et qui s'intéressent à la question du Fab Lab parce qu'ils aimeraient pouvoir créer leur propre matériel pédagogique parce qu'ils ne le trouvent pas ailleurs ou alors à des coûts assez excessifs quoi, alors qu'il n'y a pas une grande différence quoi, en termes de fabrication. Donc voilà, c'est de répondre un petit peu à ces demandes-là qui sont un peu plus importante ces derniers temps. Et puis, d'amener aussi une dynamique qui favorise l'échange avec des temps en soirée où on ne serait pas sur la réalisation de projets, mais plus sur du partage. Donc voilà, on a des adhérents qu'on pourrait mettre en avant leurs travaux. Je pense à la brodeuse numérique où il y a des gens qui ont reproduit des photos, qui travaillent avec des artistes. Mais du coup, ça permet de déclencher d'autres possibilités sur la machine. La brodeuse, ça ne sert pas qu'à faire de la broderie, on peut faire de l'art. Pareil, sur la découpeuse laser, on en a qui ont gravé du plâtre, gravé du plâtre, et du coup, qui ont fait des expos photos. Donc voilà, favoriser en fait cet échange entre les personnes, la curiosité, et mettre en avant leur projet à travers des petits temps qu'on pourrait appeler de vernissage, mais de vernissage et d'échange d'expériences techniques, en fait, et de techniques.
Je vous remercie, Mickaël.
De rien, merci.